Merci Luigi. Bon matin les enfants. Hey, bon matin tout le monde, vous êtes en forme? Hey, un petit peu plus que ça, vous êtes en forme? Ce matin, on commence une nouvelle série dans l'Évangile de Jean, mais avant de se tourner vers la parole, je voulais parler des rencontres qu'on fait dans la vie. Il y a des rencontres qu'on fait dans la vie qui nous marquent à jamais, c'est vrai? Je pense dans le bon sens du terme, d'accord? Tu peux faire des rencontres aussi qui te marquent pour la vie dans le mauvais sens, mais dans le bon sens du terme, il y a des rencontres qu'on fait qui nous transforment complètement. Ton épouse s'est mariée quand j'ai rencontré Esther. Puis c'est drôle parce que quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas nécessairement la première fois que tu le vois que tu le rencontres. J'ai déjà raconté souvent à l'église ici, quand est-ce que j'ai rencontré vraiment Esther? C'est pendant un temps de prière, je vais avoir de l'air super spirituel. Mais la vérité, c'est ça, c'est qu'était la Genèse, j'étais à la Genèse, je l'avais remarqué, mais bon, il y avait d'autres filles aussi, tu sais. Puis là, à un moment donné, on était dans un temps de prière, puis Esther s'est mise à prier, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, c'est là que j'ai rencontré Esther. Parce que là, j'ai dit, Seigneur, je pense que c'est une épouse comme ça que je veux. C'est drôle, hein? C'est à ce moment-là que ça s'est passé. Donc, il y a des rencontres qu'on fait, puis des fois, ce n'est pas la première fois qu'on voit la personne. Des fois, on a toutes des histoires, tu sais, elle ne m'avait pas remarqué, puis tu sais, il s'est passé quelque chose à un moment donné, il a dit quelque chose. On fait toutes sortes de rencontres comme ça. Quelles sortes de rencontres on fait? On fait des rencontres, évidemment, avec notre épouse, notre époux, mais ton enfant, si vous avez eu le privilège d'avoir des enfants, tu sais, quand le médecin met ton bébé dans tes bras, comme gars, là, je parle pour un homme, là, mais dans tes bras, là, c'est la rencontre. Pour un de mes enfants, c'était même pas ça, c'était l'échographie. Je pense qu'on n'avait pas eu d'enfant, c'était pour notre première. Puis quand j'ai vu le petit cœur battre, là, c'est comme, j'ai rencontré ma fille. Puis ça a changé complètement mon rapport avec cette petite bébête-là qui est en train de se former dans le ventre de mon épouse. Il y a des amitiés qui sont des rencontres comme ça. Il y a des gens qu'on rencontre. Des fois, c'est toi qui fais un pas pour aller vers la personne. Puis il y a quelque chose qui se passe, tu as remarqué la personne, tu fais des pas vers elle. D'autres fois, c'est la personne qui vient vers toi. Mais on fait tous des rencontres comme ça. Ça peut être quelqu'un de très, très connu qui, à un moment donné, te donne juste une parole d'encouragement dans une circonstance particulière. Ça reste toute ta vie, c'est présent en toi. Ce matin, on commence une série à travers laquelle on va voir que Dieu est venu nous rencontrer. L'Évangile de Jean, c'est l'Évangile où on voit que Dieu le Fils, non seulement notre Sauveur, mais Dieu le Fils est venu à la rencontre des hommes en devenant un homme, en devenant un être humain. En théologie, on appelle ça l'incarnation. Dieu est venu à notre rencontre. Et ma prière, à travers toute cette série-là, on va passer des semaines dans l'Évangile de Jean, ma prière est très, très simple. C'est que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous rencontrions Jésus-Christ. Si tu connais déjà le Seigneur Jésus, si tu es chrétien, ma prière, c'est que tu le rencontres comme tu ne l'as jamais rencontré encore. Que tu le connaisses comme tu ne l'as jamais connu encore. L'Évangile de Jean, c'est mon évangile préféré des quatre évangiles. Pour moi, la majesté, la grandeur de Jésus, on a déjà passé à travers tout l'Évangile de Jean en Église. Ça fait 20 ans que je suis pasteur ici. J'ai déjà prêché sur l'Évangile de Jean. Je me prépare, on commence cette série-là, puis j'anticipe comment moi je vais rencontrer Jésus. Parce que c'est le livre où on voit que Dieu est venu à notre rencontre. Et donc, j'ai cette simple prière-là, que tu vas venir rencontrer Jésus à ton tour. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, c'est à toi qu'on s'adresse ce matin. Tu es Dieu le Fils. Tu es Dieu fait homme. Seigneur, par ton incarnation, tu es la démonstration même que Dieu voulait nous rencontrer. Tu es venu vers nous, Seigneur. Tu es devenu un être humain. On est passé du Dieu intangible, du Dieu invisible, du Dieu, avouons-le, insaisissable à celui qui a pu être pris dans ses bras par une maman terrestre, à celui qui a été secouru dans des moments de difficulté, à celui qui a été descendu de la croix, Seigneur. On a porté ton corps, Seigneur, parce que tu es venu marcher parmi nous, comme un simple homme, comme Dieu fait homme. Et j'ai cette prière ce matin, Seigneur, pour toute l'Église de l'espoir, Seigneur, que l'Église de l'espoir puisse te rencontrer comme nous ne t'avons jamais rencontré encore, Seigneur. Que nous puissions t'adorer, te découvrir, Seigneur, comme jamais nous t'avons connu encore. J'ai cette prière, Seigneur, sur mon cœur, que toutes les personnes qui fréquentent cette Église et qui ne te connaissent pas encore vraiment, sont intrigués par toi et trouvent intéressant, peut-être captivant, mais ne te connaissent pas personnellement, Seigneur. J'ai cette prière qui vont pouvoir rester avec nous à travers toute cette série et te découvrir vraiment, Seigneur, pour qui tu es. Oh, Seigneur, tu es tellement précieux. Viens te faire connaître à nous. Viens nous rencontrer. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen. On va écouter la lecture de la Parole de Dieu, avec ce beau début de l'Évangile de Jean. On revient sur un passage qu'on a vu en début d'année. Vous allez voir, on va aller plonger encore dans le passage.
Alors, dans l'Évangile de Jean, le chapitre 1, les versets 1 à 14. Jean 1, 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Merci, Esther. C'est spécial. La Bible est un livre extraordinairement spécial. C'était vraiment le thème de notre série en début d'année. Mais les quatre évangiles, c'est spécial aussi. Pensez-y, à travers les 66 livres de la Bible, il y a quatre livres qui parlent d'une personne. On pourrait dire que toute la Bible parle de Jésus, évidemment, mais il y a littéralement quatre livres qui prennent des angles différents, qui nous racontent le ministère terrestre de Jésus. Et à travers cette série-là, on va être dans celui qui est le plus à part des quatre, l'Évangile de Jean. Les trois autres évangiles, on les appelle parfois les évangiles synoptiques. Il y a plein d'éléments dans la structure qui se ressemblent. Il y a beaucoup d'événements similaires qui sont rapportés. Mais Jean est complètement différent. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est mon évangile préféré. C'est un évangile qui a des thèmes majeurs. Laissez-moi juste vous donner une idée des thèmes qu'on va voir à travers cet évangile. Jésus-Christ, Dieu le Fils. De manière unique, l'Évangile de Jean souligne la divinité de Christ. Tu ne peux pas saisir l'Évangile de Jean et ne pas croire dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus est le Christ, il est le Sauveur des hommes. Évidemment, c'est ça le message. Jésus est envoyé pour le salut des hommes. On va voir amplement le temps de développer ça ensemble. Puisque Jésus est Dieu, un des thèmes majeurs, c'est l'incarnation. Ça a de l'air technique, mais Dieu est devenu homme. Il s'est incarné. Et on a plein de leçons à apprendre pour l'Église, pour notre vie. Ça commande des choses de la part de l'Église. Si Dieu est devenu aussi concret que devenir un homme, notre foi à nous est appelée à être très, très concrète aussi. On est appelé à incarner quelque chose les uns pour les autres. On est appelé à incarner le message de Christ pour le monde autour de nous, puisque Dieu n'a pas simplement donné un message, il est venu vivre ce message-là au milieu de nous. C'est un des grands thèmes de Jean, la communion dans la famille de Dieu. On l'a vu déjà dans ce passage-là, Jésus est venu pour qu'on puisse devenir enfant de Dieu. Jésus a quitté la communion de la Sainte Trinité. Il est venu sur la terre, il s'est fait homme pour qu'on puisse entrer dans cette famille de Dieu. Et donc, cette idée que Dieu nous invite à entrer en communion avec lui, en communion les uns avec les autres, quelqu'un qui passe d'une vie non chrétienne et qui devient chrétien, entre en communion avec la famille de Dieu. Ça parle aussi de ce que c'est l'Église. On va voir ça ensemble. Enfin, la vie éternelle qui commence maintenant et qui va jusque dans l'éternité. Donc, des thèmes qu'on voit à travers l'Évangile de Jean, Jésus-Christ, Dieu le Fils, Jésus-Christ, Sauveur des hommes, l'incarnation de Dieu, la communion dans la famille de Dieu, la vie éternelle, maintenant jusque dans l'éternité. Et voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Jésus-Christ est Sauveur des hommes, mais il est plus encore que ça. Il est notre Créateur, notre lumière, notre vie, notre Dieu. Notre Dieu. Il y a deux versets dans l'Évangile de Jean. Je fais un peu de technique ce matin. Hein. Il y a vraiment une introduction. On est dedans. Les versets 1 à 18. Donc, on va passer deux semaines dans l'introduction. Et il y a vraiment une conclusion à ce livre-là. Et laissez-moi vous partager deux versets à la toute fin de l'Évangile de Jean qui résument bien qu'est-ce que Jean avait sur son cœur lorsqu'il a écrit cet Évangile. Jean 20, verset 30-31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Commentaire de l'éditeur, de l'auteur est en train de dire, j'ai fait une sélection les amis, j'avais un message à passer. Si je vous avais dit tout ce qu'il y avait à dire, on en aurait eu beaucoup plus long que ça. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est ma prière que vous restiez avec nous à travers toute cette série-là dans l'Évangile de Jean et que personne qui est ici ce matin, que personne qui entende un seul des exposés bibliques à travers l'Évangile de Jean manque l'opportunité d'avoir la vie dans le nom de Jésus-Christ. De croire en Jésus-Christ. Ma prière, comme je l'ai dit tantôt, c'est que chacun d'entre nous vivions une rencontre avec Jésus-Christ à travers cet Évangile comme on ne l'a jamais connu encore. Comme on ne l'a jamais connu encore. Vous êtes chrétien depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Ma prière, c'est qu'à travers tout ce temps qu'on va passer dans l'Évangile de Jean, vous découvriez Jésus comme vous ne l'avez jamais connu, dans toute sa grandeur, sa magnificence, sa splendeur. Voyez-vous, l'Évangile de Jean ne commence pas comme les autres évangiles. Les autres évangiles vont tous commencer avec la nativité, la naissance humaine du Sauveur des hommes. Puis Jean commence de manière différente. Jean commence avant sa naissance humaine, commence avant la naissance du monde, avant la naissance de la terre. Jean commence en nous disant que Christ existait bien avant qu'il soit un homme, bien avant qu'il soit Jésus de Nazareth, qui a une adresse civique où il habitait sur la terre, il y avait une adresse céleste et éternelle. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on voit au verset 14 que cette parole, c'est en fait Dieu le Fils, qui s'incarne, qui devient un homme. L'Évangile de Jean commence en nous parlant du Fils de Dieu avant l'existence de l'humanité. Avant la création même, parce qu'il est là, présent à la création. Croire en Jésus-Christ, c'est croire dans un être éternel. Non pas seulement éternel dans ce qui est devant nous, mais éternel de tout temps. Avant que le temps n'existe, Dieu le Fils existait, il était auprès de Dieu. Il était éternel. Jean 1:1. Mais au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était présent avant même que l'univers existe. Il est éternel et il est créateur. Si vous êtes familier avec les Saintes Écritures, quand on lit Jean 1:1, on n'a pas le choix, on pense à Genèse 1:1. C'est comme une espèce de réflexe. C'est clair que Jean est en train de faire allusion à Genèse 1:1. Dans Genèse 1, verset 1, le premier livre de la Bible, donc création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement. au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Puis Jean fait quelque chose d'intéressant. Évidemment, en français, ce qu'on a, c'est le mot parole. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne vais pas m'attarder énormément sur ça. On va avoir l'occasion d'y revenir un peu, mais premièrement, le Nouveau Testament était écrit en grec dans l'origine. Ce n'était pas en français, désolé. C'était en grec, et le mot grec qui est là pour parole, c'est le mot « logos ». Maintenant, si vous avez étudié un peu la philosophie, si au cégep, peut-être que vous avez rencontré cette idée-là qui était présente chez les Grecs, l'idée du « logos », qui en fait, c'est comme le principe. C'est comme l'idée qui organise toute chose. Chez les Grecs, le logos, c'était le principe qui organise, qui régit l'univers. Donc, les Grecs regardaient l'univers puis ils disaient, il y a un ordre dans l'univers. Sans même connaître la parole de Dieu, ils regardaient l'univers comme plein de gens disent, il y a un design là-dedans, il y a quelque chose. C'est pas, OK, les probabilités statistiques que tout ça soit pur accident dépassent tout ce qui est raisonnable de concevoir. C'est inconcevable statistiquement que ce ne soit qu'un pur accident. Je sais, on vous dit le contraire. Continuez à faire des maths. Allez pousser les mathématiques. On est hors des probabilités raisonnables, quelles qu'elles soient. Et les Grecs regardaient l'univers et disaient, non, il y a quelque chose derrière ça. Il y a un principe, il y a un design derrière ça. Il y a quelque chose derrière ça. Et pour eux, c'était le logos. Ce n'était pas nécessairement une personne, mais c'est un espèce de principe. Puis Jean utilise ce mot-là, clairement, volontairement, mais clairement, il va puiser davantage dans les Saintes Écritures pour nous dire c'est qui ce logos-là, c'est qui cette parole-là. Parce que déjà dans l'Ancien Testament, on trouve l'idée que Dieu a créé par sa sagesse, par un espèce de principe qui régit l'univers. Je vous donne un exemple. Dans le livre des Proverbes, on trouve l'idée que la sagesse était présente lors de la création. Proverbe 8, versets 22-23, vous pouvez le prendre en note, puis vous pourrez aller le voir un autre moment. « L'Éternel m'a acquis », c'est la sagesse qui parle dans le livre des Proverbes, « au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'étais présent. » Et puis il dit au verset 31, « J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. » Et donc on trouve même dans l'Ancien Testament l'idée que lorsque Dieu crée, Dieu le fait à travers sa sagesse. Et on trouve cette idée même dans la Genèse que Dieu est comme une personne, mais il n'est pas seul. Il est là, puis il se concerte, puis il crée l'univers, puis il est en train de créer la terre. Et Jean est en train de nous dire, celui que je vais vous faire connaître à travers les prochaines pages, à travers les prochains chapitres, celui que vous allez voir, agir, parler, vous allez découvrir sa sagesse, vous allez découvrir ses œuvres, il va être énigmatique. Plus vous allez avoir l'impression que vous le saisissez, plus vous allez avoir l'impression qu'il est insaisissable, qu'il est incroyable, qu'il est grand. Jean dit, je vous donne un clou, je vous donne un indice tout de suite en commençant. Il est insaisissable parce qu'il était avant que tout soit. Il était Dieu, il était auprès de Dieu. À la création de l'univers, il a présidé. Dieu a créé toute chose à travers lui. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit l'Évangile de Jean, on découvre un personnage qui est plus grand que nature. Quand tu lis l'Évangile de Jean, plus tu l'étudies, plus tu découvres les déclarations que Jésus fait sur lui-même, ça ne rentre pas juste dans une enveloppe humaine, cette affaire-là. Ça ne rentre pas simplement dans une vie d'homme, ça dépasse ce qu'un être humain peut être. C'est plus grand qu'un être humain. Tu lis l'Évangile de Jean, puis à un moment donné, tu te dis, mais coudon, il est en train de dire qu'il est plus qu'un homme, il est en train de dire qu'il est un Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il est Dieu. Puis Jean dit, soyez bien attentifs, je vous donne un clou. Si vous voulez que ce que vous allez découvrir sur Jean à travers son Évangile, à travers cet Évangile, si vous voulez que ça fasse du sens, je vous donne un indice. Avant d'être Jésus de Nazareth, il était le principe créateur de l'univers. C'est lui qui a présidé à l'ordre que vous voyez partout sur la terre. Et donc, lorsque tu es en train de te promener dans la nature, quand tu t'en vas faire du ski alpin et tu regardes les arbres, quand tu prends un flocon dans ta main et tu commences à le regarder fondre, tu dis, chaque flocon sont différents. celui qui a organisé ça, cet univers-là. Le principe créateur qui est là, c'est le Logos. Dieu a créé toute chose à travers Christ lui-même, avant même qu'il soit un homme. Je sais que j'en ai perdu avec ma philosophie, là. Je sais qu'il y en a qui disent, « Ah, écoute, ça va être compliqué, cette affaire-là. » C'est justement ça l'idée. C'est que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement infini, tellement insaisissable, qu'il a dit, « Regardez, on va faire les choses simples, OK? Je vais devenir un être humain, vous allez me regarder vivre, vous allez m'écouter parler, et vous allez découvrir le Dieu qui s'est fait homme. » Mais gardez ça en arrière-pensée, il est beaucoup plus que l'enveloppe qu'on va découvrir. C'est vraiment un homme. Ce n'est pas juste Dieu qui s'est costumé. Il est vraiment devenu un homme. Mais gardez en tête qu'il est beaucoup plus qu'un homme. C'est Dieu qui s'est fait homme. Il est le créateur de l'univers. Il est Dieu. Et une des choses qu'on va faire à travers l'Évangile de Jean, c'est qu'on va découvrir de plus en plus la personne de Christ. Il y a deux semaines, on était dans 2 Timothée 3:16. Quand je prêche, quand on enseigne en avant, il y a une relation. Je ne suis pas en train de me pratiquer devant mon miroir, je suis en relation avec vous. Puis il y a deux semaines, je vous ai posé une question. Et j'ai vu dans plein de regards de l'incrédulité. Je vous ai posé la question suivante. Dieu a touché mon cœur. On était dans ce beau passage-là, dans 2 Timothée 3:16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Hein, pourquoi? Pour former l'homme de Dieu. Pour faire de nous des hommes et des femmes de Dieu accomplis, propres à toute bonne œuvre. Et puis on s'est promené un petit peu dans le Nouveau Testament, puis on a vu que ce que Dieu fait, c'est qu'il nous sauve par grâce, à cause de l'œuvre de Christ. Puis une fois qu'on est sauvé, cette grâce-là continue à opérer en nous pour former Christ, former le caractère de Christ en nous progressivement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai posé une question. J'ai posé la question suivante. Est-ce que vous croyez que Dieu veut former Christ en vous? Est-ce que vous croyez que Dieu veut faire de vous des hommes et des femmes de Dieu accomplis? Pas seulement, est-ce que vous croyez en lui pour être sauvé par grâce? « Oh Seigneur, je suis un pécheur, c'est terrible, j'ai besoin de ta grâce pour être pardonné parce qu'autrement je ne pourrais pas entrer dans ta présence pour l'éternité. Mais je suis sauvé par la peau des fesses, puis ça va s'arrêter là. T'sais. Moi, je veux dire, tu ne feras pas grand-chose de bon avec moi. » Je vous ai posé la question. Est-ce que vous croyez que Dieu veut former Christ en vous? Et dans beaucoup de regards, j'ai vu plein de doutes. J'ai vu plein de gens qui n'osaient pas dire oui. Ça a touché mon cœur. Je vous le dis, sincèrement, ça a touché mon cœur. Parce que je sais que c'est un des combats de la vie chrétienne. On devient chrétien, puis on dit, « Ah, Seigneur, merci, tu m'as sauvé. Maintenant, je vais être ton meilleur. Tu vas voir, je vais te donner tout ce que j'ai. Tu vas me transformer, je vais être à ton image. » Puis on avance dans la vie chrétienne, puis là, on est déçu, ça se passe pas comme on voudrait. Puis là, on trouve ça lourd. Fait qu'on vit des phases dans la vie chrétienne. T'as comme ton moment où je suis sauvé par grâce, là, je vais être un super chrétien. Là, « Oh, Seigneur, on va tout faire. Faut que je leur annonce l'Évangile à tout le monde. » Tu sors ta Bible, tu ramasses tout le monde dans la famille. Hein? « Oh, j'ai découvert Jésus. » Puis là, tu sais, les autres commencent à te regarder puis ils disent, en tout cas, ça paraît pas tant que ça. À part de nous frapper, là, je te trouve pas si hot que ça. Puis là, à un moment donné, tu commences à te regarder puis tu dis, ouais, c'est vrai que c'est pas si terrible que ça. Puis là, finalement, je pense que je fais dur, tu sais. Puis OK, peut-être que j'étais trop sûr de moi, tu sais. Puis là, écoute, Seigneur, je pense que tu m'as sauvé. On va s'en tenir à ça, OK? Comme, c'est assez. Je vais m'appuyer sur ta grâce toute ma vie. Puis là, tu arrives dans les Écritures, puis là, les Écritures te disent, « Non, non, attends un petit peu, là. C'est parce que Dieu veut te transformer. Dieu veut former Christ en toi. Il veut former le caractère de Christ en toi. Il veut faire de toi un homme, une femme de Dieu. » Puis là, tu dis, « Oui, mais c'est lourd, cette affaire-là, parce que je suis encore poche. » C'est pour ça qu'on est centré sur l'Évangile ici. C'est pour ça qu'on revient constamment à la grâce, à l'Évangile. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour devenir chrétien. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour continuer à marcher comme chrétien tous les jours. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour croire que dans sa grâce, il va faire quelque chose avec moi. Il va réussir à faire quelque chose avec moi. Il va former Christ en moi. Il y a 2 semaines, quand je vous ai posé la question, j'ai vu des regards qui étaient sceptiques. Pas tout le monde, Mais j'ai vu des gens qui étaient remplis de doutes. Puis honnêtement, mon cœur a été ému. Je voudrais vous donner ceci en début de série. À travers l'évangile de Jean, vous allez avoir l'opportunité de voir Jésus comme vous ne l'avez jamais vu. Vous allez avoir l'opportunité de voir combien il est grand, combien il est merveilleux. Il est merveilleux. Et la première chose que Dieu veut faire avec nous, il veut faire de nous des adorateurs de Jésus-Christ. Pas seulement des imitateurs, mais des adorateurs. J'adore Jésus. Je le vois, puis il est plus grand que nature, il est merveilleux, il est extraordinaire. C'est Dieu fait homme. Fait que si tu as de la difficulté à croire que Dieu veut former en toi le caractère de Christ, tu sais que tu es chrétien, mais tu as de la difficulté à croire. Ce que je te dis ce matin, c'est oublie ça pour l'instant. Oublie ça pour l'instant. Fixe les yeux sur Christ. Commence à l'adorer. Viens dans la louange avec nous, dans les chants, puis adore Christ. Fixe les regards sur lui. Vous savez, lorsque Pierre était dans la barque, il y avait la tempête, puis Jésus s'en venait. Puis là, Pierre, il dit, « Si tu es vraiment celui que je pense, commande que je marche sur les eaux, puis que je vienne à ta rencontre. » Jésus lui a dit, « Viens. » Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Hein? Ça se passait bien. Jusqu'à temps qu'il regarde ce qu'il est en train de faire. Alors, ce que je vous dis ce matin, c'est si vous manquez de foi, vous manquez de foi en Dieu pour qu'il forme Christ en vous, oubliez ça pour l'instant. Fixez les regards sur Jésus. Soyez émerveillés par sa personne. Soyez éblouis par sa personne. Parce que progressivement, Dieu va vous transformer à son image. Il y en a qui sont des amateurs de sport, puis vous rêvez d'être une vedette dans le sport, puis là, vous progressez dans le sport, puis vous avez des idoles. Dans le bon sens du terme, vous comprenez? Des modèles, vous les regardez, puis dites, « Ah, je veux être comme lui, là! Je veux tellement être comme lui! » Puis il vous inspire. Regardez à Christ. Adorez-le. Venez le célébrer avec nous dimanche après dimanche. Allez dans les Écritures pour découvrir Jésus-Christ. Puis vous allez être surpris, vous allez voir. Vous allez être transformé à son image, progressivement. Puis vous allez découvrir la grâce pour grandir en lui. Maintenant, adorer Jésus-Christ, ça demande de découvrir son incarnation. Ça demande de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit venu vers nous. C'est incroyable, l'incarnation. Pour bien des gens, c'est leur pierre d'achoppement. C'est incroyable pour eux dans le sens littéral du terme. C'est pas facile à croire que Dieu est devenu un homme. Mais quand tu comprends l'incarnation, c'est incroyable de voir qu'un Dieu merveilleux comme ça nous ait aimés à ce point-là. Et donc, on a besoin de comprendre ça. Dieu est devenu un homme. Au commencement était la parole était avec Dieu, il était dans la présence de Dieu. Avant d'être un être humain, il était déjà Dieu. Il existait avant d'être un homme. Puis il s'est incarné, verset 14, « Et la parole a été faite chair, est devenue un être humain, elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Vous savez, dans ce verset-là, ce qui devait torturer les gens qui côtoyaient Jésus, ils marchaient avec lui puis ils disaient « C'est un homme, mais c'est pas juste un homme, c'est plus qu'un homme, c'est quoi? » Qu'est-ce qui sort de ce gars-là? Je comprends pas, je le saisis pas. Il contemplait sa gloire, il l'entendait parler avec grâce et vérité. Il disait, mais c'est pas possible, ce gars-là. Puis Dieu leur a révélé par l'Esprit-Saint qu'il était Dieu fait homme. Il est venu vers nous. On est au Canada, puis au Canada, des fois, on a des visites illustres. On a une image d'une visite de la reine au Canada. C'est très, 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 c'est très, très protocolaire. Hein? Lorsque la reine vient nous visiter, on l'imagine avec la garde royale qui est là, et puis elle est pas très accessible, la reine. Voyez-vous, elle vient dans toute sa majesté, littéralement, puis on a cette visite-là, puis c'est drôle, hein? ça soutire toujours toutes sortes de commentaires. « Ouais, ça va coûter combien? » Puis, tu sais, « Est-ce que vraiment c'est quelqu'un d'extraordinaire? » Puis là, au Canada, on a une histoire qui vient de se passer. C'est qu'on a deux personnages royaux, Meghan et Harry, qui ont dit, « Ben, nous, on va venir vous visiter au Canada, mais ça ne se passera pas comme ça. On renonce à notre royauté, puis on s'en vient vivre avec vous. » Bon, on s'entend, ils ne seront peut-être pas dans une étable, OK? Leur bébé ne va peut-être pas naître dans une étable avec du fumier autour. Je pense que ça va être un petit peu plus que ça. Mais déjà, quand même, hein, y a quelque chose de plus comme, « OK, ils vont vivre comme nous. Ça se peut-tu que je les croise un jour à l'épicerie? » Je ne sais pas, là. Mais, vous comprenez? Il y a quelque chose qui se passe. Dans les Écritures, il y a deux venues de Jésus. Lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, c'est oublier la reine d'Angleterre, là, c'est rien, là, c'est de la petite bière, là, la visite de la reine d'Angleterre au Canada. Quand Jésus va revenir, là, ça va être quelque chose, quelque chose. Mais dans sa première venue, c'est plus humble encore. Donc, plus grand qu'une visite de la reine, plus humble encore que Meghan et Harry qui viennent vivre au Canada. Plus humble encore. Parce qu'il vient naître dans une étable parmi les hommes. Il vient nous rencontrer. Il vient vivre comme l'un des nôtres. Les gens l'ont côtoyé, puis il a réussi à cacher le mystère pendant des années. Je veux dire, imaginez le jour où Jésus est parti de son village, puis il a commencé à faire des miracles. Moi, j'aurais aimé juste jaser avec les enfants qui ont joué avec lui dans la cour au village, qui se sont chicanés avec, tu sais, qui ont dit, « Tableau, avoir su, j'aurais demandé un miracle plus tôt, tu sais, c'est quand... » J'avais pas passé mon examen, il aurait pu m'aider, tu sais, c'est comme... Non, mais c'est vrai, il y en a qui couraient après, par la suite, qui disaient, attends un peu, non, on comprend plus, explique-nous. Il était tellement humble que c'était vraiment un gars quiconque. Totalement quiconque, n'importe qui. Il serait ici, vous pourriez pas deviner c'est qui, tant qu'il commence pas à se manifester. Il y avait quelques personnes à qui Dieu avait révélé ça, qui gardaient ça dans leur cœur, top secret. Jésus se révélait pas. L'incarnation de Jésus nous montre que Jésus n'est pas seulement venu se donner pour nous. On va le voir lorsqu'on va arriver à la croix. La moitié de l'évangile de Jean se passe dans la dernière semaine avant sa crucifixion. Puis autour de la crucifixion, on va passer des semaines et des semaines là. Mais l'incarnation de Jésus nous montre non seulement qu'il est venu se donner pour nous, mais qu'il est venu se donner à nous. Parce qu'il est devenu l'un des nôtres. Il a couvert la distance de l'incompréhension. Il est venu manger avec nous. Tu sais, tu croises quelqu'un à l'église, au travail, tout ça, ça clique, il y a de l'air sympathique, puis tu dis, « Hey, ça serait le fun qu'on se connaisse, tout ça, on va prendre un café ensemble, on va faire quelque chose ensemble. » C'est théorique. Tant que tu ne te rends pas au repas que tu vas prendre ensemble, où on sort, on s'en va prendre un café ensemble, on sort dans un café, on va passer une soirée ensemble, tant que tu ne passes pas du temps avec la personne, c'est juste comme des vœux pieux, c'est inconcret. Mais quand on passe du temps ensemble? Et donc, Dieu est passé de ce Dieu créateur merveilleux qu'on pouvait connaître à travers tout l'Ancien Testament, qui est extraordinaire dans l'Ancien Testament, mais il y a quelque chose de très distant en même temps. Parce que c'est Dieu. Tantôt, j'ai essayé de décrire la parole avant la création, puis tout le monde avait l'impression que je faisais un cours de philo au cégep. Oui, mais c'est ça, Dieu dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. Puis j'arrive dans le Nouveau Testament, puis il devient un homme. Puis il dit, hey, on va-tu manger ensemble? Ah, on va aller manger ensemble. On va prendre un repas ensemble. Il est venu, il est devenu l'un des nôtres. Puis on va assister à ses souffrances, à ses joies, à ses peines. On va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est méprisé. On va même assister à ses doutes. Il est devenu l'un des nôtres. Et à quelque part, ça nous dit comment on est appelé à vivre notre vie chrétienne à notre tour. Dieu nous a laissés ici pour qu'on annonce l'Évangile. Mais l'Évangile ne se résume pas qu'à un message. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle-là vient nous transformer, puis ensuite, on va incarner les valeurs de l'Évangile. À travers l'Église, on va littéralement incarner les uns pour les autres l'Évangile. Puis on le fait très maladroitement, souvent on se blesse. Fait que je t'ai blessé, j'ai besoin qu'à ton tour, tu t'appliques à incarner les valeurs de l'Évangile pour qu'on répare notre relation ensemble. Mais ça devient très, très, très concret, voyez-vous. C'est pour ça que Jésus dit, Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à m'imiter. Enseignez-leur à mettre en œuvre tout ce que je vous ai prescrit. L'Église est littéralement l'incarnation de l'Évangile, les uns pour les autres, premièrement, pour la communauté. Ensuite de ça, pour la communauté at large, à l'extérieur de l'Église, au travail, avec tes voisins, à ton tour, tu es appelé à incarner ce message-là dans tes réactions, dans tes attitudes. Quand tu te plantes en te repentant, en allant demander pardon, tu es encore en train d'incarner ces valeurs-là. Hey, je veux juste être clair. Je sais que tu sais que je suis chrétien. Je ne suis pas le Christ. Je pense que tu le sais maintenant. Fait que je te demande pardon. J'essaie de pointer dans sa direction. Des fois, tu sais, tu pourras avoir l'impression qu'il fait dur si tu regardes juste à moi, mais tu comprends, c'est la grâce. Tu sais. Et c'est ça qu'on fait à travers nos petits groupes, c'est ça qu'on fait lorsqu'on est à la banque alimentaire, c'est ça qu'on fait lorsqu'on est en train de servir dans la ville. Nos initiatives, les efforts qu'on fait pour aller servir la ville, c'est ça l'idée. C'est qu'à travers ça, on va vivre des valeurs de l'Évangile et ils vont découvrir quelque chose qui va dire, « Ouais, mais vous êtes qui? Vous faites quoi? Pourquoi vous êtes différent? » Parce que dans le fond, si je te connais bien, tu es un pécheur toi aussi, tu sais. Tu me dis que les hommes sont pécheurs, mais toi aussi, tu l'es. Oui, je suis. Mais je veux pointer vers une personne, je veux incarner. Et c'est ça qu'on cherche à faire. C'est ça qu'on cherche à faire les uns pour les autres. On veut incarner les valeurs de l'Évangile. Et donc, Jésus-Christ, c'est le sauveur des hommes, c'est Dieu fait homme, c'est ce principe-là qui a créé l'univers, qui est venu vivre parmi nous, qui est devenu l'un des nôtres, mais il est venu pour nous sauver, pour sauver les hommes, pour qu'on puisse entrer dans la famille de Dieu. Regardez les versets 4 et 5. Jean dit, « En elle était la vie, dans la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Jésus est venu pour nous faire connaître Dieu. Pour nous faire connaître Dieu, pour nous faire connaître la vérité. On avait déjà l'Ancien Testament, on aurait pu connaître Dieu en lisant l'Ancien Testament, mais il dit, « Je sais que vous êtes vraiment dur à comprendre. Fait que laissez-moi l'incarner maintenant. Je vais vous faire connaître Dieu comme vous ne l'avez jamais connu. Je vais être Dieu parmi les hommes. » Mais non seulement il est venu pour nous faire connaître Dieu, il est venu pour nous révéler nous à nous-mêmes. Il est venu pour qu'on puisse se découvrir nous-mêmes. Je vais vers Jésus, puis je découvre qui je suis. Je découvre que je ne suis pas Christ. Hein, j'ai parlé de ça il y a quelques semaines. Quand les chrétiens viennent me voir, puis ils me disent, « Ah, oh, mais là, moi, je ne suis pas comme Jésus, tu sais. » Tu n'as même pas besoin de me le dire. Je le sais que tu n'es pas comme Jésus. Si je te connais, je sais que tu n'es pas comme Jésus, c'est sûr. Ah, mais Dieu veut former Christ en toi, par exemple. Dieu veut former Christ en toi. Et donc, Jésus, c'est la lumière qui nous fait découvrir Dieu comme on ne l'aurait jamais découvert sans lui. Mais c'est la lumière qui nous fait nous découvrir nous-mêmes aussi. Puis là, ça produit en nous le désir de dire, je veux sortir de mes ténèbres. Je veux sortir des ténèbres de ma vie. Je veux sortir de cette noirceur-là. Je veux sortir de mon ignorance face à Dieu. Je veux rentrer dans la lumière. Je veux entrer en relation avec Jésus. Je veux devenir moi aussi un disciple de Christ, un adorateur de Christ. Je veux accueillir cette lumière-là en moi. Je veux accueillir cette vie nouvelle-là en moi. Et il va jusqu'à dire au verset 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui accueillent cette lumière-là, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. » Parce qu'elle a un nom. C'est plus juste un principe. C'est Jésus de Nazareth, c'est Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce matin, quelques centaines d'entre nous avons vécu ça. Une nouvelle naissance spirituelle. Quelque chose qui dépasse l'entendement, la compréhension, c'est vous étudiez la personne de Jésus, peut-être que vous étiez en train d'étudier la Bible, quelqu'un vous parlait de lui, vous entendiez parler de lui, et à un certain moment donné, il s'est passé quelque chose, tu as cru en lui. Tu as cru dans la personne de Jésus-Christ. et il y a une naissance nouvelle qui s'est produite en toi qui c'est pas ta naissance physique, c'est pas juste une patente faite par les hommes. On t'a pas endoctriné dans le christianisme, t'as rencontré Jésus-Christ. Cette lumière-là s'est produite en toi, t'as saisi qui était le Christ. Et tu es entré dans la famille de Dieu. Et plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas là encore. Vous êtes ici parce que vous êtes intrigué, vous êtes ici parce que tes parents t'ont attaché par la cheville puis t'ont traîné jusqu'ici. Merci de patienter, je ne suis pas toujours intéressant. Merci d'être là. Ou tu es ici parce que tu te poses des questions, tu as rencontré un chrétien, tu es dans la vie, tu souffres, puis les souffrances font que tu te dis, il doit avoir un sens plus grand que juste la souffrance que je vis. Je veux découvrir quelque chose qui va dépasser ça, qui va m'amener ailleurs, qui va me sortir de mes ténèbres. Ma prière, c'est ceci, c'est qu'à travers l'Évangile de Jean, tu viennes découvrir avec nous qui est Jésus-Christ, puis que tu entres dans la famille de Dieu. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. On va préparer nos cœurs à adorer Jésus-Christ, à le célébrer ensemble. Ma prière, les amis, c'est qu'à travers cette série dans Jean, si tu es chrétien, tu découvres Jésus comme tu ne l'as jamais découvert. Qu'il prenne les proportions de... Je ne sais pas si vous avez vu « Le Seigneur des Anneaux ». Vous allez finir par l'écouter, hein, vous n'aurez pas le choix, j'en parle tellement souvent. Il y a un moment dans « Le Seigneur des Anneaux » où Gandalf, qui est une figure du Christ, bon, OK, spoiler, fait que Gandalf s'en va, puis il doit récupérer l'anneau. Puis Bilbon ne veut pas lui donner l'anneau. Et puis Bilbon résiste, parce que l'anneau, c'est le pouvoir, puis il veut le garder pour lui, puis... Gandalf élève la voix, puis révèle un peu plus qui il est. Puis il grandit, il devient majestueux, il devient immense. Sa voix devient comme le tonnerre. Frodon Sacquet! Puis il y a cette belle amitié qui continue entre Gandalf et lui. Ma prière, si vous êtes chrétien, c'est que Christ s'élève plus grand que Gandalf encore à travers cette série-là, puis que vous tombiez en amour à nouveau avec Jésus. Que vous soyez des adorateurs en esprit et en vérité. Ma prière, si vous ne connaissez pas Christ, c'est que vous le découvriez enfin. Quel ami fidèle et tendre j'ai en lui pour marcher dans la vie. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, encore une fois ce matin, on veut t'adorer. On est ici pour te célébrer, pour dire combien tu es beau, combien tu es grand, combien tu es majestueux. Seigneur, j'avais entendu parler de toi dans mon enfance. J'ai eu ce privilège-là d'être élevé pratiquement dans l'Église. Et j'avais entendu parler de ta grandeur, Seigneur. Puis un jour, tu t'es manifesté à moi. Tu t'es fait connaître à moi. Seigneur, j'ai fléchi les genoux. J'ai reconnu que tu étais mon Seigneur et mon Dieu. Comme Thomas, Seigneur, je me suis exclamé. Et j'ai reconnu que tu étais mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur, ce qu'on veut faire ensemble ce matin, c'est te célébrer, c'est t'adorer, c'est t'élever dans nos cœurs, Seigneur. Ma prière est toute simple. Fais-toi connaître à nous comme tu ne l'as jamais fait encore, Seigneur. Que dans les prochaines semaines, les prochains mois, chaque chrétien dans cette salle te découvre dans une beauté, une majesté qu'il ne connaissait pas encore, Seigneur. Et ma prière, Seigneur, pour celui au milieu de nous qui ne te connaît pas encore, qu'il découvre combien tu es grand et merveilleux, Seigneur. Fais-nous entrer dans cette communion avec toi. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Amen.